Aujourd'hui, avec le père Henri Lefer.
Quatrième douleur de Marie, la rencontre de Jésus portant sa croix durant la Passion. La rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin du calvaire n'est pas mentionnée dans le sobre récit des évangélistes. Nous avons cependant tout lieu d'y croire, car elle nous est connue par une tradition vénérable. Cette multitude qui précédait et suivait la victime n'était composée que de gens féroces ou insensibles. Seulement, un groupe de femmes faisait entendre de douloureuses lamentations. Marie pouvait-elle se montrer moins sensible au sort de son fils que ne le parurent ces femmes qui n'avaient avec lui d'autres liens que ceux de l'admiration ou de la reconnaissance, alors que les filles de Jérusalem se montraient sans crainte sur les pas du Sauveur, Marie pouvait-elle se rendre au calvaire par des chemins détournés? Tandis que Jésus chemine péniblement dans les rues étroites de Jérusalem qui conduisent du prétoire de Pilate jusqu'au Golgotha, la Vierge Marie qui se trouve avec saint Jean et sainte Marie-Madeleine cherche à voir son fils. Soudain, le cortège paraît. Le cheval du centurion ouvre la marche. Marie voit tout, les deux larrons, les croix, mais elle ne cherche qu'un visage, celui de son fils. Quand il s'approche, la paix devient plus profonde dans son cœur. Il n'en pouvait être autrement. Dieu s'approchait et la paix marchait devant lui. Voici que Jésus est arrivé près de Marie. La plus désolée des mères rencontre le plus désolé des fils qui n'a plus l'aspect d'un homme. Leurs regards se croisent. Le temps semble alors être suspendu. Mais Notre-Dame ne peut approcher de son fils. Elle ne peut même pas étendre la main pour le toucher. La voilà de nouveau séparée de Jésus, qui est comme engloutie par la foule qui s'est reformée autour de lui. Comme il lui aurait été plus doux de monter à la place de son fils sur le Golgotha. Cette croix de Jésus, pourtant, n'avait jamais cessé d'être présente à la pensée de Marie depuis le fiat de l'Annonciation. La prophétie de Siméon lui avait fait entrevoir quel glaive de douleur cette croix serait pour son cœur. Lorsqu'on sait qu'une épreuve nous arrivera dans le futur, nous en imaginons à l'avance tous les détails et même l'attitude, les paroles que nous aurons à ce moment-là. Mais quand l'épreuve arrive, rien de ce que nous avions prévu ne se produit. Nous sommes pris au dépourvu par la façon dont tout se passe. Par cette douleur de la Sainte Vierge, les événements ont dépassé de beaucoup l'attente la plus terrible. Car non seulement la réalité était pire que tout ce qu'elle avait pu redouter, mais elle apportait des souffrances inattendues auxquelles son âme n'avait pu se préparer. Le premier choc pour cette mère, ce fut bien sûr l'état pitoyable dans lequel son fils lui apparut. Tout avait concouru à mettre Jésus dans un état lamentable. L'agonie au jardin des Oliviers, qui lui avait déjà fait perdre beaucoup de sang et qui avait blanchi ses cheveux, au moins en partie, comme le montre le saint Suaire. La nuit sans sommeil, l'absence de nourriture depuis le repas du jeudi saint au soir, la flagellation qui avait labouré son corps, cette couronne d'épines qui meurtrissait sa tête, cette croix de 50 kilos qui entaillait son épaule et cette foule en furie qui se pressait autour de son fils, hurlant sa haine et réclamant sa mort. Si encore elle avait pu s'approcher de lui pour le soutenir, pour essuyer son visage. Tous pouvaient toucher son fils, sauf elle, et ils en profitaient pour l'outrager. Ah ! Elle aurait voulu souffrir 1000 morts pour faire cesser un tel sacrilège. Ce fut bien sûr une immense consolation pour notre Seigneur de voir sa mère bénie venir à sa rencontre pour s'unir à sa passion. Mais en même temps, Jésus souffrit dans son âme humaine de voir combien Notre-Dame était bouleversée de voir son fils en cet état. La croix de Jésus devenait plus lourde de la présence de sa mère, et la Vierge Marie en eut le cœur transpercé. C'est la première fois qu'elle causait de la peine à son fils. Pauvre mère. Quelle douleur aussi en ce moment de se dire « Mais où sont les apôtres? Où sont passés ces hommes qui ont vécu dans l'intimité de son fils pendant 3 ans et qu'il avait pourtant préparé durant tout ce temps à ce jour terrible? C'est même l'un d'eux, Judas, qui avait trahi Jésus. Ah ! Il eût été plus facile à Notre-Dame de monter au calvaire avec les apôtres autour d'elle. Mais à l'exception de saint Jean, tous avaient disparu depuis la veille au soir au moment de l'arrestation. Et si saint Jean était physiquement à ses côtés, l'épreuve l'avait comme anéanti. C'est Notre-Dame qui le soutenait plus que l'inverse. Ainsi s'accomplissait en elle la parole de Jérémie. Elle n'a cessé toute la nuit de pleurer amèrement, et ses larmes sont sur ses joues. Il ne se trouve personne qui la console parmi ses plus chers amis. Cependant, la paix de Marie n'était pas troublée. Elle s'enfonçait dans des abîmes plus profonds qu'elle n'aurait jamais pu penser, et cependant, elle continuait à avancer avec calme. Elle semblait même impassible au milieu de cette foule surexcitée qui la coudoyait. Et surtout, elle ne faisait absolument qu'un avec son fils. La Vierge Marie, soutenue par la puissance divine de notre Seigneur, gardait une totale maîtrise de son âme. Elle pouvait alors souffrir non seulement de la passion corporelle de son fils, mais aussi, et surtout, de la cause de cette passion que sont nos péchés. Et elle en souffrait dans la mesure de son amour pour Dieu que le péché offense, de son amour pour son Fils que le péché crucifie, et dans la mesure de son amour pour nos âmes que le péché ravage et tue. Amour proportionné à la plénitude de grâce extraordinaire qui était en son âme. En croisant le regard de Marie sur le chemin du calvaire, Jésus a lu dans l'âme de sa mère toutes les douleurs qu'elle endurait. Et Marie, par son regard, a montré à son fils combien elle ne faisait plus qu'une même victime avec lui. À ce moment, les deux cœurs de Jésus et de Marie se fondirent en un seul cœur, s'offrant en sacrifice pour la gloire du Père et pour notre salut.